On va commencer Bezrat Hashem.
Bonjour tout le monde.
Notre deuxième cours sur Hanouka. On a déjà fait cours la semaine dernière sur Hanouka, mais là, évidemment, on va prendre un autre thème. Pour ceux qui étaient là, la semaine dernière, nous avons développé la teneur du miracle de Hanouka. Est-ce que c'est un miracle quantitatif ou qualitatif, etc., avec un enseignement dans la vie de tous les jours pour expliquer comment amener le miracle dans notre vie. Le cours d'aujourd'hui va prendre une autre piste, mais évidemment, on va se poser la même question qui est: quel message dans la vie de tous les jours, dans ma vie, Hanouka m'apporte? Bon, mis à part le fait qu'on allume la lumière et que les gens aiment la lumière. C'est comme ça, on aime la lumière. Mais il faut essayer de trouver un message concret pour nous. Alors, si vous voulez bien, ce qu'on va faire, on va d'abord lire le texte de la Gemara. Le texte de la Gemara qui nous définit Hanouka. La Gemara nous pose la question, une Gemara très connue, parce que c'est la seule Gemara qui parle de Hanouka. Vous savez qu'il n'y a pas de traité, le Talmud, qui parle de Hanouka. Il y a un traité, le Talmud, qui parle de Purim, mais il n'y en a pas sur Hanouka. Alors, où on parle de Hanouka dans la Gemara? C'est au hasard, entre guillemets, d'une discussion de la Gemara sur les bougies du Shabbat. Et, bougies du Shabbat, tac, on bifurque sur bougies de Hanouka, et après, pendant deux pages, on parle de bougies de Hanouka. Et là-bas, le Talmud pose une question. Donc, regardez la question.
Alors, c'est un moment très fort, quand même, de l'histoire.
Oui, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc, t'as vu, poser une question très simple. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va développer plusieurs enseignements concrets et actuels, contemporains de Hanouka. Le Talmud pose la question, il nous dit, référence numéro 1, Maï Hanouka. Qu'est-ce que Hanouka? Question intéressante du Talmud. Qu'est-ce que Hanouka? On n'a jamais vu dans le Talmud une question, qu'est-ce que Pessah? Qu'est-ce que Purim? Qu'est-ce que Shavuot? Qu'est-ce que Sukkot? On sait ce que c'est.
Manifiana.
On sait pas.
Mais même Hanouka aussi, on sait ce que c'est.
Exactement.
Pessah.
Alors pourquoi on pose la question qu'est-ce que Hanouka, hein? Parce que le Talmud est conscient et veut te faire comprendre que ce que tu crois être Hanouka, c'est pas Hanouka. Rappelez-vous ceux qui étaient là au cours de Shabbat, j'en ai parlé un petit peu aussi lundi dernier. Les gens, ils pensent que Hanouka, c'est une victoire militaire. C'est pour ça que le Talmud te pose une question et te dit qu'est-ce que Hanouka? Ça veut dire, pose-toi la question. Crois pas que t'as compris tout de suite le message de Hanouka. Crois pas que c'est juste une guerre, ils sont venus, ils sont battus avec nous, on a gagné, on fait une fête. Non. C'est un miracle beaucoup plus profond que ça. Nous raconte le Talmud, lorsque les Grecs sont rentrés dans l'enceinte du temple, ils ont souillé toutes les huiles qui se trouvaient dans le temple. Vous connaissez l'histoire. Lorsque donc les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont tout souillé. Toutes les huiles, ils ont tout souillé. Non, ils n'ont pas détruit.
Ils ont souillé.
Très important. Non, pendant la guerre. Les guerres, ils sont rentrés, et comme le Beth Amikdash était un haut lieu du peuple juif, ils sont rentrés dedans, et ils ont tout souillé. Ils n'ont pas cassé, ils ont souillé. Ils ont pris les fioles d'huile, et ils les ont rendus impurs, sans les casser. D'accord? On verra après pourquoi. Lorsque les Hashmonaïm sont rentrés, ils ont voulu allumer la menorah. Déjà, il n'y avait pas la menorah. Donc, ils ont dû confectionner une menorah. Et ils rentrent, ils veulent l'allumer, ils cherchent de l'huile. Au début, il n'y a pas d'huile. Toutes les huiles sont souillées, elles sont déjà décachetées, donc elles ne sont pas cachères. C'est comme si je vous dis, tu trouves que des bouteilles de coca ouvertes. C'est décacheté. Sauf que là, c'est impur, c'est ma machin pur. Et à la fin, ils ont trouvé, vous connaissez l'histoire, Vlomatsu, la parichat shel shemen, shayemuna bechotmo shel kohen gadol. On a trouvé qu'une seule fiole d'huile qui portait le sceau du kohen gadol. Et donc, Vela yaboel alekemechad, dans une fiole, il y avait assez pour brûler un jour. Naasebones. Alors, il y a eu un miracle, et de cette fiole qui pouvait brûler qu'un jour, on a allumé 8 jours. Ça, on l'a étudié la semaine dernière dans la Gemara. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la menorah que nous allumons aujourd'hui, qui est là, je l'ai fait amener tout à l'heure, un exprès pour ça, d'accord? Cette menorah, elle nous rappelle la menorah du temple. On est d'accord? La référence est claire. La menorah que nous allumons nous rappelle le miracle qui s'est passé avec la menorah du temple. Sauf que là, si vous voulez bien, on va montrer plusieurs différences. 3 différences, peut-être même 4 différences, entre les bougies de Hanouka et la menorah du temple. Alors, aujourd'hui, en hébreu moderne, on appelle ça une Hanoukia. C'est en hébreu moderne. Bon, dans le langage talmudique, ça s'appelle une menorah. Donc, ça amplifie la question, parce que menorah, vous allez voir que les deux s'appellent menorah. La menorah du temple s'appelle menorah, et notre menorah s'appelle aussi menorah. Et pourtant, elles n'ont rien à voir. Et pas seulement au niveau de la forme des branches, enfin au niveau du nombre des branches, mais sur plusieurs aspects. Donc, si vous voulez bien, ce qu'on va faire dans la référence numéro 2, on va laisser le texte parler, on va juxtaposer les références. À la droite, vous avez la menorah du temple, et à la gauche, vous avez les bougies de Hanouka. Vous allez voir comment, tout de suite, on va voir qu'il y a un problème. Pourtant, la référence des bougies de Hanouka, c'est la menorah du temple. N'oublions pas, c'est pour ça qu'on a étudié la Gemara. La Gemara nous raconte une histoire. Elle dit, qu'est-ce que Hanouka? On est entré dans le temple, on voulait allumer la menorah du temple, et il y a eu un miracle. Donc, pour se souvenir de ça, nous aussi, on allume notre Hanoukia, notre menorah. Donc, il doit y avoir une comparaison entre les deux.
Mais y a pas les
mêmes. Enfin, alors, regardez.
Ça doit être identique, normalement.
À l'identique, au moins à l'identique. Alors, lisons. On va commencer, comme d'habitude, chez les Juifs, par la droite. D'accord? Terouma, c'est un pasouk dans la paracha Terouma, qui décrit le cahier des charges de la construction de la menorah. Donc, c'est Dieu qui parle à Moïse, il lui dit, voilà comment tu vas construire la menorah. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ve'asita et Nerotea Shiva. Tu feras les lampes de la menorah au nombre de 7. 7 branches. D'accord? Ve'ela et Nerotea, quand on disposera ces lampes, Ve'ir al Everpanea, on dirigera la lumière du côté de sa face. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que dans la menorah du temple, il y avait 3 branches de côté, 3 branches de côté, une branche centrale, et on s'arrangeait pour que toutes les flammes des côtés étaient dirigées, convergées vers le milieu.
D'accord.
Donc ça veut dire que c'est pas stable le chiffre 7. Comment ça? C'est que tout convergeait vers le chiffre 7.
Alors, ça veut dire que les bouts étaient comme ça.
Exactement. Ça veut dire que ça allait comme ça.
C'est attiré par le champ.
D'ailleurs, ça relève un peu du. On s'arrangeait pour diriger les mèches, il y avait la centrale, et on dirigeait à droite, à gauche, d'accord? Et tout le monde allait vers la bougie du milieu. Très bien. Lisons maintenant dans la colonne de gauche notre menorah.
Vous voyez, là, le shamash, il le compte, hein?
Bien sûr.
Alors que tout
très,
à l'heure.
Très bonne question. Pas tout à l'heure, Shabbat.
Enfin, Shabbat.
Alors, lisons maintenant la Gemara dans la colonne de gauche qui nous décrit. Évidemment, il n'y a pas de verset sur la menorah de Hanouka. Il n'y a pas de verset dans la Torah. C'est la Gemara qui en parle. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Mitzvat Hanouka, Ner Ish Uveto. La mitzvah de Hanouka, c'est une seule bougie par famille. Normalement, Hanouka, on aurait dû allumer une bougie par famille. Une bougie. Premier jour, une bougie. Deuxième jour, deux bougies. Troisième jour, trois bougies.
C'est ce qu'on fait.
Attendez. Non, excusez-moi. Premier jour, une bougie. Deuxième jour, une bougie. Troisième jour, une bougie. Tous les jours, une bougie. Une bougie par famille. Ve'ame Adri, Nalechalechad, Ve'echad. Retenez bien ça parce que ça va nous aider dans la suite du cours. Ceux qui veulent faire la perfection de la mitzvah, ils vont allumer une bougie par personne. C'est-à-dire, par exemple, si on est 10 personnes à la maison, chacun allume une bougie par jour. Donc, ça veut dire que, du coup, aujourd'hui, on est 10 personnes à la maison, on allume 10 bougies. Demain, on est 10 personnes à la maison, 10 bougies. Après-demain, 10 bougies. Vehame adrin, miname adrin. Maintenant, ceux qui veulent faire la perfection de la perfection, c'est-à-dire le top du top, betil alomrim, betil ediz, Yom Rishon Madlik Achat, le premier jour il allume une, Mikan Velach Mesivolech, et chaque jour on rajoutera une bougie. Ce qui fait que, donc d'abord il y a une différence, il y a plusieurs différences. D'abord il y a une différence dans la quantité. C'est que la menorah du temple avait combien de branches?
7.
7 branches. Alors que la menorah, la Hanoukia, elle a combien de branches?
9.
Alors c'est faux en vérité, parce que la Hanoukia, pour être cachère, elle n'a pas besoin de branches.
8.
Non, elle n'a pas besoin de branches. C'est juste que je peux. Non,
et voilà, il vient de le dire.
Attendez,
attendez.
Je vous parle de la menorah que vous allumez chez vous à la maison.
Oui.
Ce soir, par exemple, combien de bougies on a allumé ce soir? Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire en rentrant chez vous.
Oui.
7 bougies. Imaginons que j'ai pas de candélabre. Que je prends 7 lampions et je les aligne.
Ah ben oui, c'est valable.
C'est pas cher. Hier, j'en aligne 6. Non, même pas surélevé.
Non, ça marche.
Oui, voilà. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de candélabre. Mais sauf qu'il y a un problème. C'est quoi? C'est que, dans la menorah du temple, le chiffre était toujours le même. Dimanche, on allume 7 bougies. Lundi, 7. Mardi, 7. Shabbat, 7. Tous les jours, 7, 7, 7, 7, 7. C'est le chiffre gagnant. Alors que nous, ça marche pas comme ça. Nous, vous avez remarqué, on commençait par 1, après 2, après 3, et on augmente progressivement. Ça veut dire que c'est pas du tout comme la menorah du temple. Dans le temple, quand Dieu il a fait le miracle, et qu'on a allumé la menorah, combien on en a allumé?
Une seule fois.
Non! Avec une fiole, était suffisante pour allumer les 7. Parce que si on manquait une seule des 7, c'est pas cachère. Il fallait allumer les 7. Donc, dans ce cas-là, on a une première différence flagrante entre la menorah du temple et la menorah qu'on allume, c'est que la menorah du temple, elle est stable. 7, 7, 7, 7, 7. Alors que nous, on commence 1, après 2, après 3, et encore, j'ai même pas parlé de la vie de Beth Shammai. Beth Shammai, ils disent non. Premier jour, tu allumes 8, après le deuxième jour 7, après 6. Mais en tout cas, c'est pas stable. Pourquoi c'est pas stable? Pourquoi dès le départ, lorsque les sages ont instauré, ils ont pas instauré dans le temple pour allumer 7? On allume 7 aussi, pas de problème.
Non.
7 par jour. Oui. On a la question.
Oui, mais, enfin, toute la menorah.
C'est même pas toute la menorah, parce que dans votre menorah, il y a 9 branches. Mais c'est même pas la question. La question n'est même pas sur le nombre des branches. Encore une autre question, ça. La question est sur la stabilité. Dans le temple, c'est tous les jours un chiffre fixe, alors que nous, ça bouge. Pourquoi? Comment c'est ça qu'on a fait ça? Première question. Vous voyez? Tout de suite, on voit que c'est pas la même. On s'élève même pas comme le miracle. Parce que dans le miracle, j'en ai mis 7. Non,
mais là, tu dis qu'on là, on fait la vie la plus. La mitzvah la plus.
Ça ne change pas. Au temple. Le miracle de Hanouka durait combien de jours?
Mais pareil.
8 jours. Le premier jour de Hanouka, lorsque le miracle s'est passé, on a allumé combien de bougies?
Une.
7?
Ah, ça,
ah oui.
Ah, c'est tout.
Dans le temple, quand le miracle s'est passé en temps réel, on a allumé le premier jour 7, le deuxième jour 7, le troisième jour 7, le quatrième jour 7. Toujours pendant 8 jours. Le miracle, c'était qu'on avait une fiole qui suffisait pour un jour et qu'elle a brûlé pour 7 jours. Ça veut dire
qu'on a divisé alors.
Non, pas du tout.
La quantité.
Je vais expliquer. Une fiole, c'est comme si je vous dis une bouteille. Dans une bouteille, on peut remplir 7 verres, imaginons.
Ouais.
D'accord, bon là il y a 6, mais on peut remplir 7 verres. Donc ça se passait comme ça, on stockait par jour. Dans la fiole, il y avait assez pour un jour. On a trouvé de quoi faire un jour. Le miracle, c'est qu'au lieu de brûler un jour, ça brûlait 8 jours.
Donc il y avait assez pour chaque fiole.
Mais ça veut dire que le premier jour, quand on allumait, il y avait 7. Ben, c'est ça. 7 bougies doivent être allumées. S'il y en a une qui n'est pas allumée, c'est pas cachère. Alors que nous, il n'y a que ce soir qu'on a allumé 7. Enfin.
Rien qu'en venant au miracle de Hanouka, donc ça veut dire que le premier jour, on a allumé les 7.
Voilà.
Et on n'a plus besoin de rallumer les 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8e juste parce qu'elles sont continuées à brûler.
Non, c'est pour ça, on en a parlé la semaine dernière, ça. On a dit que ça s'est éteint, ça a rallumé, etc.
Ouais.
Mais en tout cas, tous les jours, il y avait 7.
C'est pas continué.
Donc nous, on ne fait pas comme le temple.
Exactement. Pourquoi?
Pourquoi? Bah, écoute,
bonne question.
Parce que ce n'est pas la même.
Deuxième question.
Attends, mais. Non. Attends. Est-ce qu'elle brûlait 24 sur 24?
Bon, on a passé la semaine dernière, on a parlé de ça. En tout cas, on a une question de stabilité. Dans le temple, même la menorah, et même lorsque le miracle de Hanouka s'est passé, on allumait les 7 bougies, alors que nous, on allume 1, 2, 3, c'est pas stable. Première question. Excusez-moi, je vais juste montrer les différences après toutes les questions que vous voulez avec grand plaisir. D'accord? Alors, on y va. Deuxième question. On va passer maintenant la référence numéro 2, mais la deuxième ligne. D'accord? Donc on est parachuté de Tetzavé.
À droite ou gauche?
Droite. Parachuté de Tetzavé, la menorah du temple. Quand on allumait, à quel moment allumait-on la menorah du temple? À Lot, à Aaron et à Nérot, Ben Arbaïm. On allumait la menorah du temple dans l'après-midi. Elle devait brûler toute la nuit.
Voilà.
On mettait la quantité pour brûler toute la nuit. Mais on devait allumer la menorah du temple dans l'après-midi. Ben Arbaïm. Alors que nous, notre menorah, on l'allume quand? On passe à la droite, à gauche. Mitzvata, la mitzvah, Mishitishka Achama, dès que le soleil se couche, Achitichle Regel Minashuk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants dans la rue, ça veut dire jusqu'à ce que la nuit soit bien tombée et que les gens soient rentrés chez eux. Donc là, encore, on voit une différence flagrante.
Si on
l'allume comme la menorah du temple, on aurait dû l'allumer cet après-midi à 14h.
Ça, c'est pas la même chose, c'est pas la même.
Donc voilà, mais oui, pourtant, on vient d'étudier ensemble la Gemara, qui nous a dit que la référence de notre menorah, c'est l'histoire de la menorah du temple. Donc je comprends pas, la menorah du temple, on allumait 7 tous les jours, pourquoi t'allumes pas 7 tous les jours? La menorah du temple, on l'allumait à 14h, pourquoi t'allumes pas à 14h? T'as rien à voir? C'est quoi cette histoire?
Il y a du monde au magasin.
J'ai pas fini? J'ai pas fini? Il y a aussi une autre différence. Il y a aussi une autre différence sur le positionnement de la menorah. Où était positionnée la menorah dans le temple? Regardez. Maïmonide, là donc je suis à la troisième ligne et je prends la colonne de droite. Maïmonide nous raconte, il nous dit comme ça. Il nous dit, dans le temple, à menorah, Bédarom, la menorah se trouvait à gauche. Mismol à Nirnas. Donc, à gauche, celui qui entre. Veshulchan, miyamin. Et la table des pains de proposition était à droite. Ushnehem, betzat kodesh akodashim. Et tous deux étaient devant le Saint des Saints. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que lorsqu'on rentre devant le Saint des Saints, il y avait la menorah. À droite, d'accord? Il y avait, quand on rentrait, excusez-moi. Quand on rentrait, il y avait, la menorah était à ma gauche, d'accord? Et à ma droite, il y avait les pains de proposition. Et au milieu, il y avait le petit autel. Maintenant, où c'était ça? c'était devant le Saint des Saints. Ouais. Là, il faut que je vous définisse un peu comment ça se passait.
Qu'est-ce qui était devant?
Attendez, je vous raconter. Laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous parler. Imaginez que ça c'est le mont du Temple. Ouais. Mont du Temple. D'accord? Donc déjà, pour arriver au mont du Temple, il faut être pur. Donc la majorité des gens ne rentraient même pas. Même pour les fêtes, ils rentraient. D'accord, ils vont rentrer. Quand tu rentres dans le mont du Temple, tu rentrais dans une grande cour. Dans cette cour, d'accord, il y avait une bâtisse. Pas une bâtisse, une deuxième cour. Que ça encore, il fallait encore être encore plus pur. Deuxième cour. D'accord? Ensuite, dans cette cour, il y avait une bâtisse qui est au milieu. Voilà, je le fais petit parce que je n'ai pas de quoi faire. On va prendre un camouchoir. Voilà, exactement. Il y avait une petite bâtisse qui était là. Ici. Maintenant, dans cette bâtisse, donc là déjà vous comprenez que plus on avance, plus il faut être pur. Cette bâtisse, c'était une bâtisse fermée. Là, c'était fermé. Là, c'était des cours qui étaient avec des murailles. Mais ça, c'était fermé. D'accord? Donc, ça tombe bien, c'est fermé. Et dans cette bâtisse qui était fermée, il y avait une première partie qui était ouverte que au Kohanim, qui était celle-là, et une deuxième partie dans laquelle on rentrait que le jour de Kippour. D'accord? Le Saint des Saints. Et où était la menorah? Elle était là. Donc, ça veut dire que dans les faits, qui voyait la menorah? Personne. Il n'y avait que le Kohen de service qui rentrait. C'est-à-dire, même les Kohanim classiques, ils étaient toujours dans la cour autour, ici. Pour préparer les sacrifices qui se faisaient dehors. Personne rentrait à l'intérieur. À l'intérieur, sans voir, il n'y avait personne. Il y avait 3-4 personnes qui rentraient. Pour mettre les encens, pour mettre la lumière, la menorah, et c'est tout.
Donc, la lumière de la menorah est cachée.
Non. Donc, qui voyait la menorah? Qui voyait la menorah, du coup? Non, c'est pas bon, ça. Oui, d'accord, mais là, c'est pas bien, parce qu'ils enlevaient la bâtisse. C'est pas bon. C'est pas comme ça. C'est faux. D'accord? En fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé la bâtisse pour vous montrer ce qui se passait. Mais en vérité, c'était couvert. Chazak pour le dessin. D'accord? Donc, du coup, qui voyait la lumière de la menorah du temple? Personne. On savait qu'il y avait une menorah. De temps en temps, lorsque le Kohen voulait faire kiffer les gens, il pouvait ouvrir les rideaux. Et de loin, hein, à, je sais pas moi, 600 mètres, 500-600 mètres, on pouvait voir de loin au fond la lumière de la menorah. De loin. C'est tout. Ça, c'est la menorah du temple qui était allumée à l'intérieur. Et pas cette main à l'intérieur. À l'intérieur, au maximum qu'on peut aller. Parce que, après, c'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints, on peut rentrer là-bas que à Kippour et pour 5 minutes. Donc, ça veut dire que la menorah est allumée le plus proche possible du Saint des Saints. Ça veut dire au maximum de l'endroit où on peut aller. Attendez, je vous montre la différence maintenant. On passe maintenant à la Gemara qui nous raconte comment nous, on allume la menorah. Où on allume la menorah, nous? Ner Chanouka, la bougie de Chanouka. Mitzvah le hanicha al petar beto mibachut. On a la mitzvah de la poser sur la porte de sa maison à l'extérieur. Donc là, on a une différence fondamentale. Voilà. Dans le temple, la menorah était le plus à l'intérieur possible. Ça veut dire, d'abord, il y avait la grande cour, après la deuxième cour, après la bâtisse, etc. Et on va jusqu'à devant le Saint des Saints, et là, on l'allume.
On se demande même à quoi il existe.
Exactement. Pourquoi. Voilà. Ça veut dire qu'elle était là. Personne la voyait. On sait qu'elle éclairait le monde entier, mais en tout cas, elle était à l'intérieur et le plus à l'intérieur possible. Alors que là, on te dit pour la menorah que toi tu vas allumer à Hanouka.
Au contraire.
On te dit tu l'allumes pas là, ici. Tu l'allumes là, dehors, à la porte qui donne dehors. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a changé? La menorah du temple. Donc c'est normalement la menorah j'aurais dû l'allumer aujourd'hui. L'allumer sur la table de mon salon.
Caché.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les dangers qu'il y a, etc., pas tout le monde va allumer la fenêtre. Mais je veux dire, la menorah est conçue normalement, notre menorah est conçue pour être allumée dehors, c'est pour ça qu'on fait les allumages publics. Donc là, vous voyez une troisième différence fondamentale entre la menorah du temple et celle que nous allumons. Je résume, parce que j'en ai encore d'autres. Trois différences qui sont quand même majeures. Première différence, c'est que la menorah du temple est stable, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, alors que la nôtre, elle évolue.
1, 2, 3,
ou bien 8, 7, 6, mais elle évolue. Première différence. Deuxième différence, la menorah du temple était allumée l'après-midi, alors que la nôtre était allumée le soir. Troisième différence, la menorah du temple était allumée le plus à l'intérieur possible, alors que la nôtre, elle est le plus à l'extérieur possible. D'ailleurs, vous connaissez l'halakha. L'halakha nous dit comme ça. L'halakha nous dit, la menorah, tu dois l'allumer sur la porte de ta maison. Si devant ta maison, tu as une cour, Baruch HaShem, tu as une cour, tu dois l'allumer sur la porte de ta cour, qui donne sur le domaine public. Ça veut dire que la menorah, c'est pour faire du buzz, pour aller dehors.
C'est tout à fait le contraire.
Voilà. Plus que ça, mieux que ça, on peut pas. Là, c'est mamache le contraire. Enfin, quatrième différence. En fait, et ça, cette différence va être la clé de la réponse, en fait. Parce que la quatrième différence que je vais vous montrer, c'est un peu la clé de la réponse qui va nous expliquer pourquoi il y a les différences numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si on prend historiquement,
il y a peu de temps.
Les bougies de la menorah étaient allumées à quel moment? Étaient allumées à l'époque du temple. Attendez. C'est quoi la lumière? C'est quoi le temple? Comment on définit l'époque du temple? On va prendre ensemble la colonne de droite, la quatrième ligne. Dans Mlachim, dans les rois. Dans les rois, vous savez, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle les rois. Et là-bas, c'est raconté comme ça. Vayeshev Yehuda v'Israël à Vetar. Juda et Israël demeurèrent en sécurité. Ishtachat Gavdo, c'est une phrase depuis qui est devenue très célèbre. Chacun, sous sa vigne, Vetachat Enatou et sous son figuier. C'est une phrase très connue. Chacun sous sa vigne, sous son figuier. C'est une expression qui veut
chacun
dire.
Chez soi.
Non, chacun. Ça veut dire qu'il est bien établi. Il a son pavillon. Il a la vigne. Non. Il a le figuier. Hein? Il est bien installé. D'accord. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. D'accord. D'abord, je vais expliquer la menorah est allumée où. Avant, ne regardez pas encore, monsieur Benita. Je vais expliquer. La menorah du temple est allumée où. D'abord, avant d'aller allumée dans le temple, elle était dans le sanctuaire. Sanctuaire, le tabernacle. Le tabernacle était dans le désert. Alors, on va reprendre l'histoire. Lorsqu'on était dans le désert, vous êtes d'accord avec moi que tout allait bien. On était bien dans le désert.
Oui,
t'as pas de problème.
Nourri, blanchi.
T'es nourri, logé, blanchi, protégé.
Ouais, protégé. Chouchouté.
D'accord. Protégé. Ah oui, ça veut dire que si on t'envoie une flèche, celui qui t'envoie une flèche retourne à la case départ. C'est encore mieux que d'homme de fer. Ouais. Qui pas de barzel. C'est encore mieux. C'est-à-dire que là, il te dit, tu envoies, c'est retour à la case départ.
C'est double qui
boomerang. D'accord. C'est énorme. Donc là, déjà, la première fois qu'on allumait la menorah, c'était dans le désert. Dans le désert, on était au top. Pas de problème. Mais de la même façon, le temple a été construit à quel moment? Le temple a été construit à l'époque du roi Salomon. L'époque du roi Salomon est connue comme l'époque de l'âge d'or du peuple juif.
Mais au temple.
D'ailleurs, le Talmud.
Dans le temple.
Non, mais c'est que, la même menorah, oui. C'est la même.
Que vous venez de décrire là.
C'est la même. Oui, c'est la même menorah.
Et pièce de pièce.
Oui, pareil. C'est la même chose. D'accord. Donc je disais, dans le sanctuaire, dans le tabernacle, la menorah, d'accord. Le sanctuaire représente une époque. On vivait bien, on était dans le désert. Même le temple, il était construit à quel moment? Il était construit à l'époque du roi Salomon. L'époque du roi Salomon, c'est connu comme l'âge d'or du peuple juif. Lorsque le Zohar parle de l'époque du roi Salomon, il appelle ça la pleine lune. Vous savez que le peuple juif, on est comparé à la lune. Bon, la lune, elle évolue. Et la pleine lune, des fois, elle est plus grande, elle est plus petite. La pleine lune du peuple juif, c'est quand? L'âge d'or, c'est quand?
Salomon.
C'était l'époque du roi Salomon. À l'époque du roi Salomon, les nations venaient nous payer un impôt. C'est comme j'aurais dit les États-Unis aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui veut être proche des États-Unis. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, paye de l'argent aux États-Unis. Tout le monde, hein?
Ça dépend, là. En ce moment, ça dépend.
Bon, il y a Maboul qui est là-bas à la tête, mais enfin, Maboul. Il fait son travail, Hein? Les gens le prennent pour un Maboul.
C'est un messager.
Mais, bien sûr. Il a fait des très bonnes choses. Il a fait des très bonnes choses.
Il ramène de l'emploi aux États-Unis.
Dieu, il met celui qui doit mettre, c'est tout. Mais je reprends. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, à l'époque, les peuples du monde entier, pratiquement, venaient pour payer des impôts au roi Salomon. C'est juste payer des impôts pour que. Donc évidemment, c'est un âge d'or. Et comment c'est décrit dans comment c'est décrit justement dans les rois? Les rois, ça définit cette époque. On dit chacun sous sa figue et sous son vignier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Pardon, ça n'avait rien du tout.
Il venait payer pour la sécurité.
Maintenant, vous savez, lorsqu'un juif, il va bien matériellement. J'espère qu'il va bien aussi spirituellement. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, des fois, lorsqu'un juif, il a un peu trop d'argent, des fois, il peut oublier un peu Dieu. Des fois, ça peut arriver. D'accord? C'est pas forcément le cas, mais ça peut être le cas. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, les juifs, ils avaient le Beth Amikdash devant eux. C'est-à-dire, tu pouvais pas faire le malin, parce que tu savais que dès que tu fais le malin, t'as le Beth Amikdash devant toi avec les miracles, en live. C'est-à-dire, dès que ton Yitzhara t'embête un peu, tu sors, tu vois juste le temple, tu vois un miracle en live. Tu vois la fumée qui monte du temple, tu vois le vent de Jérusalem qui souffle, tu vois la fumée, elle monte droit chez HM. Tu dis, c'est bon, j'ai compris.
C'est bon, j'arrête.
D'accord? C'est bon, Yitzhara. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, les Juifs, il n'y a pas de problème. Le Yitzhara, il est tranquille. D'accord? Pas de problème matériel. Donc, pas de problème, hein?
C'est l'époque de Mashiach.
Exactement. C'est presque. Parce qu'il y a quand même un peu de résistance. Ça veut dire qu'à l'époque, par quoi étaient occupés les Juifs? Ils étaient occupés par les soucis spirituels. C'est ce qui les prenait, la tête. Étudier la Torah. Alors que les bougies de Hanouka, à quel moment arrive le miracle de Hanouka? On en a parlé Shabbat. Ça arrive à un moment dans lequel le peuple juif passe une période très difficile. Matériellement, on vit très mal. Matériellement, on sait très bien que l'armée d'Israël était une armée qui était très petite.
D'accord? Très petite?
Très petite. Il n'y a même pas vraiment d'armée. On était sous contrôle grec. Ça veut dire que concrètement, c'est les Grecs qui géraient le pays d'Israël. D'accord? Et pas seulement ça, on arrive à une situation dans laquelle on est en galère. Ça veut dire que la menorah, on nous l'a prise, on nous a souillé une tempe, c'est la catastrophe. Donc là, ça c'est la vraie différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce que va expliquer ici le rabbi dans ce commentaire, hein, il dit, Bien sûr que les bougies de Hanouka, quand le miracle de Hanouka s'est passé, on a allumé dans le temple. Mais il faut bien comprendre les époques dans lesquelles ça s'est passé. L'époque du roi Salomon était une époque dans laquelle tout allait bien. L'époque de Hanouka est une époque dans laquelle tout allait mal. Donc c'est une époque qui nous rappelle l'exil. C'est intéressant comme situation, parce que si vous voulez, il vivait un exil avec le temple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À l'époque de Hanouka, avant que le miracle arrive, on vivait un exil avec le temple. C'est-à-dire qu'il y avait le temple, mais dans les faits, on n'avait pas forcément accès. Et dans les faits, c'était les Grecs qui géraient le pays. Donc, il y avait un temple. Le temple, il était là. Mais on était en plein exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, la menorah du temple représente lorsque tout va bien pour le peuple juif, alors que la menorah de Hanouka représente l'exil, lorsque tout va mal pour le peuple juif. Et ça explique la différence.
Donc là, on fête l'exil. Là.
Exactement. C'est pour ça que Hanouka est une fête qui nous parle particulièrement aujourd'hui. Dans le Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, ça ne leur parlait pas. Et vous avez posé la question. Il a posé la question à M. Akos, il a dit, comment ça se fait que le Talmud n'en parle pas? Comment c'est qu'il n'y a pas un traité de Mishnah? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la majorité des maîtres de la Mishnah, ils ont évolué à l'époque du Beth Amikdash. Donc à l'époque du Beth Amikdash,
t'as pas de problème,
tu parles plus de Hanouka, c'est fini, la menorah elle est devant toi. Donc Hanouka n'en parlait pas vraiment, il faisait ce qu'il fallait faire, mais ça n'en parlait pas vraiment. Par contre, dès qu'on arrive dans l'exil, là Hanouka te parle, parce que tu dis, ça me parle cette histoire. Me dire que je suis dans une situation que dans laquelle j'ai les poings liés et que je peux pas accomplir ce que je dois accomplir, je peux pas faire les mieux comme je veux les accomplir, ça c'est quelque chose de compliqué. Alors avec ça, on va expliquer toutes les différences. Toutes les différences, très simples. Comme ça. Je termine le raisonnement. Rappelez-vous, on avait plusieurs différences. Quatre différences, on a développé. Et là, je vais vous montrer que les quatre différences sont imbriquées les unes dans les autres. Et que, en vérité, toutes ces différences découlent d'un seul point. Ça dépend, est-ce qu'on vit en mode galoutique, est-ce qu'on vit en mode d'exil, ou est-ce qu'on vit en mode geoula, ou est-ce qu'on vit en mode machiar, comme tu as dit. Tout dépend de ça. Je rappelle les trois différences. Première différence, quand la menorah chiffre 7. Alors que nous, notre menorah, on va en augmentant. C'est très simple. Là, on a un premier enseignement qui est très clair. Tu dis comme ça. Tu dis, lorsque tout va bien, lorsque chacun est sur sa figue et sous son vignier, t'as pas besoin, sous sa vigne et sous son figuier, t'as pas besoin tous les jours d'augmenter. C'est-à-dire, t'as pas besoin de te poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai rajouté aujourd'hui sur hier? Tu poses pas la question. Tant que t'es stable et que tu fais les mitzvot comme hier, c'est très bien. Ça, c'est quand il y a le Beth Amikdash. Quand il y a le Beth Amikdash, hier t'avais 7, aujourd'hui t'as 7, c'est magnifique. Pas de problème, ne te pose pas de questions. Juste assure-toi que ça baisse pas. Assure-toi que le cours, il reste stable. Que ça bouge pas. Ça, c'est quand tout va bien. Mais quand t'es dans l'obscurité, quand t'es en exil. En exil, l'obscurité, tous les jours, elle augmente. Donc toi, quand tu dis, hier je faisais Shabbat, aujourd'hui je fais le même Shabbat qu'hier, on dit, ton Shabbat d'hier ne fait pas le poids devant l'exil d'aujourd'hui. Pourquoi? On te dit parce que hier il y avait une obscurité qui était comme ça, donc ton Shabbat était comme ça, il a fait le poids. Aujourd'hui t'as un exil qui est plus profond, donc il te faut un exil qui est plus fort. Il te faut, pardon, une lumière qui est plus forte. Et là on comprend tout de suite la différence. À l'époque du temple, tout était clair, tout était limpide. On te dit, écoute, te prends pas la tête, cherche une valeur sûre. Et quand tu restes la valeur sûre, reste le même toute ta vie, ne bouge pas. Et c'est comme ça que les juifs étaient. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas à un juif de faire des efforts. Faire des efforts, ça n'existait pas. On dit, écoute, on le mettait dans la religion, on l'éduquait quand il était pied à faire son Shabbat, ses fêtes, ses tefillin, ses midot. Après, on lui dit, tu bouges pas, tu restes comme ça jusqu'à 120 ans. C'est bon. C'est comme ça. T'es 7. Mais ça marche seulement quand t'es pas en exil. Quand t'es à l'époque du temple. Ça veut dire, tu programmais un enfant, tu programmais un gosse. Tu vois, tu lui mettais tac, 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 Shabbat, les fêtes, les tefillin, la mezouza, tac, 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 tac. Tu le laisses comme ça, tu reviens 20 ans plus tard, il est encore là.
Alors finalement, l'exil est programmé alors?
Ah non, ben,
dans
justement.
L'histoire de la création.
Ah ben, bien sûr. Ouais. C'est ce qu'on te dit. On te dit, à l'époque du temple, on pouvait se permettre d'être stable. Comment ça va, stable? De nos jours, en exil, on peut pas être stable. Et des fois, des gens, tu dis, pourquoi t'avances pas? Ils disent, ça y est, j'ai appris quand j'étais à l'école juive. Ça fait 20 ans qu'il était à l'école juive. On dit, mais depuis 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. À l'époque du temple, ça aurait été une bonne réponse. J'ai appris quand j'étais à l'école, depuis j'ai pas bougé, c'est une valeur sûre. 7, ça bouge pas.
Mais pourquoi alors? Hein?
Parce qu'à l'époque, ils avaient pas l'obscurité du monde qui augmentait. Ils avaient pas. Si t'es en Israël, il y a pas d'obscurité. Il y avait la lumière, il y avait que la Torah. Donc, si t'as pas l'obscurité qui augmente, t'as pas besoin d'augmenter la lumière. comment je veux dire? Si par exemple j'ai un peu d'obscurité, j'allume une petite lumière. Ensuite, si l'obscurité s'épaissit, il faut plus de lumière. Mais si dès le départ, j'ai allumé toute la lumière et tout est allumé, tout est clair, il fait jour. J'ai pas besoin de faire plus jour, il fait jour, ça y est, touche pas. Ça, c'est l'époque du temple. Donc ça explique la première différence. Comment ça se fait que notre menorah à nous, elle est pas stable? Elle avance tous les jours. Hier, c'était 6, aujourd'hui c'est 7, demain c'est 8. Et on avance, on augmente. Alors vous allez me dire, après demain 9. Bon, après Hanouka c'est terminé. Mais je pense que le message est clair, c'est que tu dois comprendre que tu ne dois jamais te suffire des acquis d'hier. Parce que tu es en exil. Quand ce Mashiach reviendra, tu pourras te suffire de tes acquis. Mais là que Mashiach n'est pas là, comme l'obscurité augmente, tu ne peux pas te suffire de tes acquis, tu dois augmenter.
Donc le Tania qu'on étudie, il est valable qu'en exil.
C'est pas ça. On peut toujours avancer. Bien sûr, on peut toujours avancer.
Non, mais si je prends simplement ce que tu viens, le raisonnement que tu viens de nous donner, le Tania, tu nous as dit, c'est le livre des Benoni. Dans les peut-être les 20 premiers chapitres que l'on a vu, tu nous as expliqué que l'homme il a été créé pour se tourmenter et faire en sorte qu'il progresse et qu'il avance chaque moment.
En effet, oui.
Donc si pendant le temps du Beit HaMikdash, il n'y a pas besoin de se tourmenter parce qu'on peut vivre sur ses acquis, mais c'est tout le contraire quand on n'est pas avec le Beit HaMikdash, on est en galoute. Donc ça veut dire que le livre du Tania, la façon de tourner les choses que...
Ah mais c'est clair que quand je m'arriverai là, on n'aura plus des tzara. Donc c'est différent. Oui.
Autant on allumait carrément tous les jours, 7 tous les jours.
Oui.
Savoir, hein.
Qui nous empêche d'allumer tous les jours cette bougie?
Encore une fois, parce que ça c'est la clé. Non, je comprends votre question.
Ça n'a rien à voir.
Ça veut dire comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le message de la menorah du temple et quel est le message de ma menorah. Le message de la menorah du temple, ça exprime une stabilité. Ça exprime un moment où tout va bien, la lumière est allumée. Le message de ma menorah exprime un message qui est éternel. Techniquement, il va durer 8 jours, parce que chaque fête a ses limites. Pessah dure aussi 7 jours, 8 jours. Ben, Pessah dure un nombre de jours défini. Chaque fête dure un nombre de jours défini. Ce qu'on explique en chassidoute, c'est que chaque fête a un message qui ne s'arrête pas. Ce que je veux dire par là, j'ai compris votre question. Ce que je veux dire par là, c'est que le message de Hanouka ne s'arrête pas. Allumer les bougies, ça va s'arrêter parce que un rituel s'arrête toujours. C'est comme Shabbat, on aimerait que Shabbat dure toute la semaine.
Ah bah ça pourrait aller même beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on se dispute pour Jérusalem, d'accord? Pourquoi maintenant on ne veut pas instaurer, dit voilà, si c'est comme ça, bah, tous les juifs doivent allumer tous les jours 7 bougies pour la pensée.
Mais il n'y a pas de mitzvah de le faire.
On défile pas, hein. On va pas faire le défilé.
Oui, j'ai compris.
Toi, à la maison,
ça pourrait être une bonne idée. Mais il n'y a pas de message fort.
Rien.
C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est l'emblème de l'État d'Israël, la menorah.
Voilà, d'accord. C'est tout. Donc,
je comprends.
À force de discuter, dire voilà, chacun il dit voilà, t'as une pensée, tu veux que ce soit.
Je comprends, c'est une bonne question.
À mon avis, là-haut, ça peut être différent.
Mais je comprends, mais c'est pas une mitzvah.
Hanouka,
c'est une
pensée.
Ok, oui, je comprends pas.
Ça rappelle du temps qui était détruit.
C'est une bonne idée.
On te dira, tu
comprends pas.
Tu peux avoir la pensée sans.
Mais encore une fois, le problème, et ça, je vous dis, on le voit très souvent chez les gens, malheureusement, dans les communautés, et moi le premier, hein, c'est qu'on se repose sur nos acquis. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as fait des efforts dans ta vie. D'accord? T'as fait des efforts dans ta vie, tu t'es lancé, Baruch HaShem, t'as fait ta mitzvot, etc. Oh, mais on va s'arrêter sur les mitzvot. D'accord? Ça veut dire que dans la vie, on fait des efforts, on avance, et après un moment, tu sens que t'es arrivé, vous savez, on appelle ça en vitesse de croisière.
Oui.
Vitesse de croisière.
Ah, tu manges cachère, puis j'ai
pas. Tu dis, je suis bon maintenant. Maintenant, touche pas. En fait, ça marche pas. Parce que vitesse de croisière, ça marche. Lorsque la tempête, elle reste comme elle était, tous les jours, elle bouge plus, là, tu restes vitesse de croisière. Mais entre temps, le vent, il a augmenté, la tempête, elle a augmenté. Donc ta vitesse de croisière, elle suit plus. Donc vous savez comment ça marche? Quand ta vitesse de croisière, elle suit plus, eh ben, après, elle est inopérante. Ça veut dire qu'au début, c'est même pas que, au lieu d'aller à 10 nœuds, tu vas à 4 nœuds. Tu vas à 0 nœud, tu coules. Ça veut dire que tu as besoin de mettre plus de puissance. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est en exil. Parce que lorsqu'on est dans une époque de guerre, et ça c'est la vraie guerre dans laquelle on est aujourd'hui. J'en ai parlé la semaine dernière aussi. Quand on parle de la guerre, c'est pas seulement la guerre physique, qu'on a des terroristes qui veulent nous tuer. C'est pire que ça. C'est qu'on a une guerre dans l'intérieur aussi. C'est-à-dire d'abord on a une guerre avec les goïms qui veulent nous assimiler. On a une guerre aussi entre les juifs. J'ai pas envie de dire le mot guerre parce que c'est un mot qui est trop fort. Mais ça veut dire que l'assimilation nous attaque de tous les côtés et pas que par des goïms, même par des juifs. Entre nous. Donc c'est très difficile de tenir. Et chaque jour amène son lot de problèmes. Chaque jour amène son lot de problèmes et de nouvelles tentations pour tenter de t'assimiler et te rajouter, de t'attaquer sur un autre angle. Donc c'est pour ça que le premier message qu'on a de Hanouka, on te dit, Hanouka c'est pas comme le temple. Le temple tu pouvais être stable. Hanouka tu peux pas être stable. Hanouka c'est comme en exil. L'exil faut tout le temps innover. Tout le temps poser la question, qu'est-ce que j'ai rajouté aujourd'hui sur hier? En quoi mon Shabbat d'aujourd'hui est différent d'hier? Pose constamment la question. Donc ça, avec ça, on a répondu déjà à la première question. Pourquoi dans le temple 7 et pourquoi nous, on va en augmentant? Avec ça, on répond aussi à la deuxième question. Deuxième question, on a dit comment ça se fait que la menorah du temps, elle était allumée l'après-midi, alors que nous, on l'allume la nuit. La réponse est très simple. Rappelez-vous, la menorah du temple symbolise le moment où tout va bien. L'après-midi. À quel moment le soleil tape le plus fort? L'après-midi, c'est là. Ben Arbaïm, c'est l'après-midi, c'est le moment où le soleil, il a déjà tapé tout le matin, donc la terre est chaude, donc c'est là qu'il tape. Quel moment on allume la menorah dans le temple? L'après-midi. Ça veut dire, il fait clair, c'est la lumière. Mais la menorah qu'on allume nous, elle représente le moment où justement, il n'y a pas de lumière, où justement, on est en exil. C'est pour ça, à quel moment on allume notre menorah? On l'allume précisément lorsqu'il fait obscur. Ou en tout cas, vers la tombée de la nuit, mais il faut que ça éclaire quand il fasse nuit. Pour te dire quoi? Pour te dire, la menorah que toi tu allumes, elle n'est pas venue pour éclairer en pleine journée. C'est pas comme au temple. La menorah que toi tu allumes, elle est venue pour t'éclairer dans l'exil. Donc c'est pour ça que nous, notre menorah, on l'allume non pas l'après-midi, on l'allume la nuit. Parce que le symbole de la nuit, d'accord? Le symbole de la nuit, c'est le symbole du moment dans lequel l'obscurité règne à bord.
Alors si elle doit m'éclairer parce que je suis en exil, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de l'exposer à l'extérieur.
Ah, ok. Bonne question. Alors maintenant, arrive au troisième point. Okay, j'arrive, vous imaginez que j'arrive. Arrive le troisième point. Il dit comme ça. Il dit, lorsque le problème, j'entends votre question, le problème il est comme ça. Ça c'est une grande question qu'on se pose. Et c'est une grande question qu'on s'est posée dans le judaïsme. Non mais ce que je vous dis c'est pas écrit ici. C'est une grande question qu'on s'est posée dans le judaïsme. Comment faire devant l'assimilation? Est-ce qu'on doit se protéger ou est-ce qu'on doit attaquer? Est-ce qu'on doit être en mode offensif ou en mode défensif? Très grande question. J'explique ce que je veux dire. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire en tant que père et mère qui a une famille, qui a une maison, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire en sorte de protéger ma maison au maximum pour faire en sorte que mes enfants sont protégés? Donc je dis, plus on est protégé à l'intérieur, moins on sort dehors, mieux c'est.
C'est pas bon.
Ou bien, je dois être constamment en mode offensif.
Offensif.
Ça veut dire que constamment, je diffuse autour de moi. Alors Rabbi te dit comme ça. Il te dit, lorsqu'il fait jour dehors, dans ce cas-là, t'as pas besoin d'aller éclairer dehors. Tu restes chez toi à la maison, tout va bien. Mais lorsqu'il fait nuit dehors, le problème, c'est que l'obscurité de l'extérieur, elle risque de rentrer dans ta maison. Donc tu peux pas te suffire d'allumer que chez toi. Parce que si t'allumes sur ton salon, t'allumes chez toi à la maison, je parle de la symbolique évidemment. Si t'allumes que chez toi à la maison, tu allumes ton âme à l'intérieur, t'allumes au fond de toi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'obscurité de l'extérieur, progressivement, rentre en toi. Donc c'est pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? T'es obligé de passer à l'offensive. C'est quoi l'offensive?
Les éclairs.
L'offensive, ça veut dire que tu dis, je veux pas seulement éclairer chez moi à la maison. Je vais éclairer autour de moi l'obscurité. Parce que c'est la seule façon de repousser l'obscurité de pas rentrer en toi. Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Lorsque le rabbi est arrivé après la Shoah, la majorité du monde orthodoxe était en mode défensif. Ça veut dire, ils ont dit, on va aller s'enfermer dans des ghettos, dans des villages, dans des endroits où il n'y a personne, on va créer nos écoles, on va tout fermer, fermer. Plus on ferme, mieux c'est. Et on peut les comprendre, parce que les gens ont sorti de la Shoah. En plus, on a tellement souffert de l'assimilation. Ça veut dire que t'es attaqué partout. Les goyim t'attaquent, même les juifs t'attaquent. Parce que, comprenez que les juifs qui ont réussi à lever la tête après la Shoah, la majorité, ils disaient, bon, ben, maintenant qu'on a levé la tête, Dieu nous oublie, nous aussi on va l'oublier. C'est la tendance. Malheureusement, Dieu préserve. Voilà, on peut pas les juger. Donc, comment il fait un rabbin qui a une communauté, qui a des enfants éduqués, qui a une école, qui a une école à fond, etc. Comment il fait pour le protéger de ça? Donc, la majorité des écoles disaient comme ça. Elles disaient, nous, on va protéger nos enfants. Dans un cocon. Ça veut dire qu'à la limite, il y a même des endroits où on leur apprenait même pas la langue du pays. Moi, je connais des gens aux États-Unis, bon, maintenant ça a changé, que quand ils étaient à l'école, on leur apprenait même pas l'anglais. On parlait qu'en yiddish. En yiddish à la maison, en yiddish à l'école, en yiddish dans la rue. On a fait des quartiers entiers dans lesquels toutes les boutiques, tout le monde parle en yiddish. C'est-à-dire que le gosse, il parle pas anglais.
Exactement.
Et après, sur le tas, il apprenait l'anglais, évidemment, mais à quel âge il apprenait? À 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans. C'est-à-dire le plus tard possible. On dit, nous, on se protège. Et ça peut se comprendre. Ça s'appelle une approche défensive. une approche, dans l'armée, c'est comme ça. T'as une approche défensive. C'est une approche qui existe. Ça veut dire que c'est un peu comme, voilà, un peu comme par exemple, nous on est là. Moi, j'envoie pas de missiles sur Gaza. Si eux, ils m'envoient, je leur envoie une dame de fer pour l'arrêter. D'accord?
Donc ça marche pas.
Ça, c'est le mode défensif.
Ça marche pas.
Bon, ça peut marcher, comme ça peut même pas marcher. Marche. D'accord? Voilà. Seulement, le rabbi, il est venu. Le rabbi, il est venu. Il a dit, je fais pas de rapport avec les débats militaires. Le rabbi, il est venu. Il a dit la chose suivante. Il a dit non. Il a dit, ça marche pas comme ça. Il a dit, on peut pas, on gagnera pas la guerre contre le Yetzer Hara et contre l'assimilation en étant en mode défensif. Cette guerre, il faut la gagner en étant en mode offensif.
Mais lui-même, il parlait en yiddish.
Non, tous ses évidemment, évidemment, bien sûr.
Donc il était.
Mais il est pas en train de dire on va
il
se déverrouiller.
En défensif.
Pas du tout. Il est pas en train de dire on va se déverrouiller. Il y a deux choses que je veux vous dire. D'abord, il était pas en train de se déverrouiller. Il est pas en train de dire, il a pas dit on va se déverrouiller, chassé shalom. Il est en train de te dire, d'un côté, il faut protéger nos enfants. C'est pour ça que, par exemple, nos enfants, on les protège le plus longtemps possible. Parce qu'un enfant, il n'est pas encore en état d'aller combattre l'obscurité qu'il y a dehors. Mais d'un autre côté, tu vas l'éduquer que dès qu'il sera, d'accord, dès qu'il sera en état, il faut qu'il sorte dehors. C'est comme un lionceau, tu comprends? Tu prends le lion, la mère, dès que le lionceau, il va naître, la mère, elle lui dit pas directement, vas-y, va cogner. Ça marche pas comme ça. Il peut pas cogner. Il est pas en état. D'abord, la mère, elle le protège. Et dès qu'il y a un qui veut le toucher, tout le monde lui tombe dessus. Et après, petit à petit, il commence à faire des petits combats par-ci, par-là. Après, il y va et après, il cogne. D'accord? C'est comme ça que ça marche, non? Vous êtes d'accord avec moi? D'abord, tu t'entraînes, après tu vas pour de bon. Ah, maintenant, c'est la même chose spirituellement. Tu peux pas prendre un enfant directement qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu dis vas-y, va cogner. Il peut pas cogner, il va se casser la figure. Il va se faire démonter. Oui, tu peux pas. Il faut progressivement, mais dans sa tête, il doit savoir. C'est dans sa tête. Il doit savoir que dès que j'aurai les épaules assez solides, mon but c'est d'aller dehors. Mon but c'est d'éclairer dehors. Pourquoi? Pas parce que j'aime aller dehors. Un juif, il aime pas aller dehors. Un juif, il aime être à la maison. Il aime créer la lumière dans la Torah dans sa maison. Oui. Seulement le problème, c'est quoi? C'est que l'obscurité dehors, elle rentre chez toi.
Ah
oui. Et si t'es pas en train de diffuser dehors, eh ben, l'obscurité dehors rentre chez toi. Et donc, vous savez, c'est comme en physique. Ça veut dire que tu peux pas avoir deux actions en même temps. Si tu fais ça, lui, il arrive pas à rentrer. D'accord? Et quand la pause n'existe pas. Tu dis pas, pause, arrêt sur image. Ça n'existe pas, arrêt sur image. Il y a tout le temps un qui force. Si c'est toi qui forces, tu le mets dehors. Si c'est lui qui force, il rentre dehors, il rentre à l'intérieur. Il n'y a pas d'arrêt sur image, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, dans le temple, on allumait la menorah à l'intérieur. Dans le temple, la menorah, ça symbolisait quand tout va bien. Quand tout va bien, t'as pas besoin de te sortir dehors. T'as rien à faire dehors. Reste dans la maison d'études. Reste chez toi à la maison. T'as rien à faire dehors. Un juif, il a rien à faire avec l'obscurité. On dit, reste chez toi à la maison.
Oui, mais il y avait des goïms autour de lui à ce moment-là.
Très bien.
Il devait lui apporter la lumière.
On dit, reste chez toi et ta maison va diffuser. Mais toi, tu restes chez toi. Tu commences pas à être là à vouloir diffuser dehors. Parce que toi, tu t'occupes chez toi. T'as pas besoin d'aller diffuser dehors. Ça, c'est à l'époque du temple. Mais aujourd'hui, quand on va en exil, on peut plus réfléchir comme ça. En exil, on est obligé de s'efforcer d'éclairer la rue. Donc ça veut dire qu'on te dit tu t'arrêtes pas. D'abord on te dit tous les jours tu dois augmenter. Et pas seulement que tu dois augmenter, tu dois éclairer dehors, d'accord? Et pas seulement dehors, tu dois sortir de chez toi pour le faire. Ça explique toutes les différences. C'est pour ça que la menorah du temple, un chiffre stable, t'as pas besoin d'augmenter. La menorah du temple, elle est allumée en plein jour et la menorah du temple, elle est à l'intérieur. Alors que notre Hanoukia, c'est tout le contraire exactement. On va en augmentant pour te montrer qu'il faut toujours augmenter. On l'allume aussi la nuit. Ou en tout cas, elle va éclairer la nuit, pour te montrer qu'il faut éclairer la nuit, et ça se passe en exil. Et aussi, troisième élément qu'on a dit, ta menorah, il faut qu'elle éclaire dehors. Dehors. Il faut éclairer dehors. Si tu n'éclaires pas dehors, ça ne marche pas. Voilà. Alors, on va juste terminer avec la référence numéro 3, après encore d'autres choses. Allez-y.
En Allemagne.
Oui.
Les juifs, ils parlaient que le yiddish. Mais que c'était une catastrophe pour les Allemands. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Donc,
oui, mais, qui mais attendez, là, non.
Qui parlait une langue à eux.
Le yiddish, c'est comme le judéo-arabe.
Oui, mais eh ben, ah, oui,
c'est la même chose.
Non, mais c'était une grosse violence. Ils pensaient se protéger contre eux.
Oh, bah, Joseph, non, quoi qu'on fasse, on nous critiquera.
Les Allemands, ils ne peuvent pas.
Je vous en prie, Joseph, je vous en prie. Ne me justifiez pas les Allemands.
Non, je ne dis pas les Allemands, c'est-à-dire que c'était un moyen en plus de dire comment ce peuple-là...
Joseph, les Juifs sont riches, on leur reproche d'être riches. Ils sont pauvres, on leur reproche d'être pauvres. Ils sont intégrés, on leur reproche d'être intégrés. Ils sont intégristes, on leur reproche d'être intégristes.
Tu as vu le reportage là, de l'Express, là, ce qu'ils ont marqué là?
De quoi?
De l'Express, là, ce qu'ils ont marqué. Ils ont dit que 60%, non, 4 Français sur 10 qui disent que les Juifs
sont intégrés, c'est magnifique, c'est super, mais qui sont tous riches, qui sont tous dans la finance, qui sont tous dans les médias, qui sont tous
amen.
Machin, qui sont tous...
Mais non, c'est
le folklore.
Depuis les siècles.
C'est la guerre, je les connais.
Depuis le Moyen-Âge, ils vont se les...
Toujours.
C'est de leur faute, hein.
Alors, vous comprenez...
C'est que les métiers de l'argent au Moyen-Âge. C'est leur faute, hein.
C'est vrai.
C'est la vérité.
C'est leur faute. Vous comprenez
que le commerce,
la finance.
Quand on demande à un juif de venir et de sortir dehors, c'est un effort considérable. Parce que le juif, il n'a pas envie de sortir dehors. Il dit, moi, j'ai envie d'être en mode défensif, j'ai envie de me protéger, j'ai envie d'être chez moi à la maison. Oui. J'ai pas envie d'aller me battre. J'aime pas, le juif, il aime pas la guerre. Pourquoi vous croyez qu'ils arrivent tellement à nous prendre avec pour parler, etc. Parce qu'un juif, par définition, il dit, ah, Shalom, moi, je veux la paix. Un juif, il veut la paix, il veut être tranquille. Ouais. Mais on n'a pas le choix. La seule façon de tenir aujourd'hui quand on est en exil, c'est d'être en mode offensif. Offensif, ça veut dire attaquer. Pas attaquer méchamment, pas attaquer pour dire je vais t'embêter. Pour dire, je diffuse la lumière. Ils ont l'obscurité, je diffuse la lumière. On diffuse la lumière. Je voudrais juste terminer avec la référence numéro 3, après on va développer encore. Il dit comme ça. Vezema, c'est un mot très puissant ce qu'on voit dans la référence numéro 3. Vezema, shenidrash, mikol echad vechad misret. Voici ce qu'on exige aujourd'hui de chaque juif. La date de savoir, shehu shagrir shel HaKadosh Baruch Hu. Chaque juif doit savoir, chacun de nous, chacun et chacune, d'accord, est l'ambassadeur de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs. On va expliquer. Les chamem, pour réchauffer, ou les adlik et agashmiut shibichelko baolam, pour réchauffer et pour allumer, entre guillemets, donc le matériel, d'accord, qui est dans ma parcelle du monde, atchi yair, Gamet atzmo ve gamet sivato, au point qu'il va éclairer soi-même et son entourage. Ça veut dire comme ça. On va développer. Après, on fera la suite. J'ai pas terminé encore le paragraphe. Quel est le rôle d'un ambassadeur? Il représente. Par exemple, aujourd'hui, vous avez l'ambassadeur des États-Unis. Il représente les États-Unis.
Il peut aller menacer.
D'accord. Donc l'ambassade des États-Unis, c'est les États-Unis. Voilà. D'ailleurs, pour entrer à l'intérieur, voilà, c'est comme un pays. Je peux pas rentrer. Moi, quelqu'un qui n'a pas de visa ou qui n'a pas de raison valable de rentrer, ou bien on peut pas faire sortir quelqu'un là-bas. C'est un pays. On est d'accord? Ok. Alors chacun de nous doit savoir que nous sommes les ambassadeurs d'un Kadosh Baruch. Ça veut dire quoi être ambassadeur d'un Kadosh Baruch? Ça veut dire que Kadosh Baruch te dit, je t'envoie dans un monde, qui est, laissez-moi développer l'idée, c'est l'image qui m'intéresse. D'accord. Je t'envoie dans un monde, Dieu te dit, dans lequel tu n'es pas populaire. C'est pas ton pays. Ton pays, c'est en haut. Ton pays, c'est la terre d'Israël avec Mashiach. Même en Israël aujourd'hui, on n'est toujours pas dans notre pays. Faut le savoir, ça. Les gens, ils pensent qu'ils vont faire l'Aliya, tout va aller bien. Même en Israël aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité, je vais être honnête avec vous, et j'ai pas peur de le dire, d'accord? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, que moi, l'endroit où je ressens le plus l'exil, c'est quand je vais en Israël. Pas du tout, je te promets. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un endroit, quand tu es en France, tu sais qu'en France, tu es en exil. Mais quand tu vas dans un endroit comme la terre d'Israël, que c'est là-bas que ça doit se passer, vois que ça se passe pas comme il faut, c'est là que ça t'amplifie encore plus le message. Et tu te rappelles, tu dis que ma chère n'est pas là. Et donc ça te fait de la peine. Mais tu sais que c'est en train de changer, ça va changer. D'accord? Alors, attendez. Chacun de nous doit savoir qu'il est ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est une personne qui est là pour représenter un pays, dans l'endroit qui n'est pas le pays. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir un ambassadeur de la France dans un pays, un ambassadeur américain en France, même si la France et les États-Unis sont complètement opposés. C'est pas grave. C'est un ambassadeur. Alors nous aussi. Aujourd'hui, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Et on doit être les ambassadeurs de Dieu. C'est quoi un ambassadeur? C'est-à-dire, Dieu dit, toi, tu me représentes. Tu me représentes. Moi, je suis pas là maintenant. On est dans un monde obscur. À l'époque du Beth Amikdash, j'ai pas besoin d'ambassadeur. À l'époque du Beth Amikdash, le monde entier, c'est l'ambassade. Le monde entier, c'est le pays. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un ambassadeur. Est-ce qu'en Amérique, il y a besoin d'avoir un ambassadeur de l'Amérique? Pas besoin. On est en Amérique. Lorsqu'il y a le Beth Amikdash, il n'y a pas besoin d'ambassadeur. On ne demandait pas un juif, va être là, va diffuser. Il n'était pas à diffuser. Sois un bon juif, c'est tout ce qu'on te demande. Mets tes tefillin, fais ton shabbat, c'est tout ce qu'on te demande. Fais pas de vagues. C'est tout ce qu'on te demande. Reste tranquille. Bouge pas. C'est tout ce qu'on te demande à un juif. Ça, c'est à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde que le monde qui est autour de nous est obscur. Même en Israël, le monde est obscur. Donc chacun de nous doit être ambassadeur de Dieu. Sachez que chaque fois que vous faites une mitzvah, vous êtes un ambassadeur. Pourquoi? Parce que quelque part, chacun de vous, je suis sûr, on vous prend un petit peu pour le rabbin de la famille. Le rabbin de la famille, ou en tout cas le religieux de la famille. Parce que quelqu'un qui a la présence d'esprit de venir à un cours de Tania lundi soir, ça c'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui veut avancer. Alors, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est la réalité. on est des ambassadeurs. Puis tu dis, mais non, moi je suis un juif simple, moi. Moi je m'appelle Michel, moi je m'appelle Bernard, moi je m'appelle Bertrand, moi je m'appelle si. Moi je suis un juif simple, ne me prenez pas la tête. Mais tu peux pas, c'est pas possible. L'ambassadeur. Est-ce que l'ambassadeur des États-Unis, il peut marcher dehors et il peut dire, moi je suis pas l'ambassadeur maintenant, moi je suis un homme simple, moi, je suis un simple citoyen. C'est impossible.
Bon, mais lui il a choisi d'être ambassadeur.
J'ai compris, nous on n'a pas choisi. C'est comme une star. Est-ce qu'une star qui sort dehors, elle peut dire, laissez-moi tranquille, je vais sortir sans maquillage, je vais sortir sans. Tu peux pas.
Il peut pas.
Même s'il met un casque, c'est au contraire, on va le trouver encore plus.
Mais quand tu sors à la télévision, mets un casque. Comme ça,
c'est pas possible. Parce qu'on te dit, quand tu représentes quelque chose, que tu veux ou que tu ne veux pas, tu représentes.
Que tu veux pas, ouais.
C'est comme ça. Maintenant, imaginez que nous sommes les ambassadeurs de la lumière dans un endroit qui est complètement obscur. Donc, on peut pas dire, bon, mais moi, je suis là, je me prends pas la tête, je suis qui je suis et je diffuse pas. Que tu veux ou que tu veux pas, tu diffuses. Les gens te regardent. Les gens, ils te disent comment il a fait lui. Et quand je dis les gens, c'est pas que les juifs. D'abord, les juifs, c'est sûr qu'ils te regardent. Les membres de ta famille te regardent, ta femme te regarde, tes enfants te regardent, tes voisins te regardent. Tu sais, tes voisins qui sont pas religieux, pour eux, t'es le religieux de l'immeuble. Ils te regardent. Ils te disent rien, mais ils te regardent, ils te suivent. Et ce qu'ils voient faire, t'es l'exemple. C'est-à-dire que si toi tu baisses d'un niveau, eux ils baissent d'un niveau. Toi tu montes d'un niveau, eux ils montent d'un niveau. Parce que t'es le modèle, tu comprends? C'est-à-dire quand le modèle il baisse, alors lui il baisse. Et celui il baisse, lui c'est le modèle de quelqu'un d'autre. Donc lui aussi il baisse. C'est-à-dire que toi t'es descendu un petit peu, du coup t'es une pyramide entière qui a baissé. Parce que t'es l'ambassadeur.
On voulait se calmer, on peut se calmer là.
Tu peux pas te calmer. Ouais. Tu peux pas. Tu n'as pas le choix. C'est vrai, on raconte une histoire, c'est le Rav Steinman, il est parti la semaine dernière. À la vache à l'homme. Et donc on raconte, je crois que c'est sur lui qu'on raconte cette histoire, sur un autre rave. Il est très tard la nuit. On lui posait la question, on lui dit, mais pourquoi vous êtes très tard la nuit? Il était fatigué, pourquoi vous êtes tellement tard la nuit? Il dit, je vous expliquais, parce que moi j'éteins la lumière de ma maison, enfin j'ai pas les chiffres exacts, mais j'éteins la lumière de ma maison à 2h du matin. Maintenant, les gens ils regardent la lumière à quelle heure c'est d'un. Donc comment il voit à 2h, il dit, bon, le rave s'éteint à 2h, moi il va s'éteindre à 1h30. Et maintenant, il y en a un qui va regarder ce rave, qui est à 1h30, etc., à 10h, bon, vous comprenez, ça va en descendant. Donc si moi, je vais au lieu d'éteindre la lumière à 2h du matin, je vais l'éteindre à 1h du matin, il y a toute la pyramide derrière qui va baisser. Donc je peux pas baisser, j'ai pas le droit de baisser. C'est fort comme message. D'accord, ça veut dire, alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas de l'égoïsme? Non, je pense pas que c'est de l'égoïsme. D'accord, c'est pas de l'égoïsme. Est-ce que c'est pas prétentieux? Est-ce que c'est pas...
Voilà, ça oui, peut-être.
D'accord. Est-ce que c'est pas prétentieux? Je ne sais pas. Je pense pas. En tout cas, venant de cette personne-là, c'est un grand rave. C'est clair qu'une personne peut utiliser ça en prétentieux. En dire, suivez-moi, donc je veux monter comme ça tout le monde me suive. Mais bon. Vous voyez bien que le peuple ne se trompe pas. Le peuple n'est pas imbécile. C'est-à-dire, les gens, ils savent qui suivent, ils savent pourquoi on suit. D'accord. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on ne devient pas rabbi pour rien, on ne devient pas rabbi pour rien. C'est tout, c'est comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, nous sommes des
ambassadeurs.
Nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs de quel pays?
France.
Le pays de Dieu.
Ah, Israël.
Le pays, c'est tout. Et donc, l'ambassadeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'ambassadeur? On attend de l'ambassadeur d'allumer.
On peut avoir des RTT nous aussi ou non?
On attend de l'ambassadeur d'allumer. D'allumer quoi? D'allumer quoi? On demande à l'ambassadeur d'allumer sa partie dans le monde. Et là, écoutez bien ce que je veux dire. Chacun de nous a une partie dans le monde. Alors une partie, ça peut être une rue, ça peut être un étage, ça peut être 15 mètres carrés quelque part, ça peut être une ville. Ça, c'est Dieu qui connaît les comptes. Mais chacun de nous a une partie dans le monde qui lui appartient qu'à lui. Quand je dis qu'il lui appartient, c'est pas que ça lui appartient, on va prendre une carte, ça m'appartient. Ça veut dire que c'est une partie dans le monde qui a que toi qui peut l'éclairer. Même si Moïse y vient, il peut pas l'éclairer. C'est comme comment vous dire?
C'est un peu d'exclusivité, ça?
C'est l'exclusivité.
Oui, mais c'est dommage.
Il y a un contact.
Où, comme ça, on sait où
aller. Bah, vous inquiétez pas, Dieu vous envoie. C'est où tu vis. C'est
où tu vis. Rien que te casse pas la tête.
Parce que si Dieu voulait, si Dieu y pensait que Villades, quelle adresse?
Ouais, 23.
23. Si Dieu y pensait que 23 Villades, c'est que Moïse qui peut récupérer là-bas, il aurait envoyé Moïse. Mais il a envoyé Charles Benita. Pourquoi il a envoyé Charles Benita? Parce que, je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a que Charles Benita qui peut récupérer les étincelles divines qui est là-bas. Et pas seulement récupérer, réchauffer l'endroit.
Yeah.
Réchauffer, allumer l'endroit. D'accord. Non, mais je suis sérieux.
Ouais.
Et pas seulement s'allumer lui-même, allumer sa partie et éclairer son entourage. Ça veut dire comme ça. Et posez-vous la question, qu'est-ce que mes voisins connaissent de moi?
Rien.
Qu'est-ce que mes voisins ils pensent quand on dit Charles Benita? quand on leur dit Michel Lacoste, ouais, quand on leur dit Serge Siboney, etc.
Il
bon, chacun
est dans.
Est-ce que c'est juste bon? C'est un bon voisin qui fait pas de vagues.
Ouais.
C'est comme ça que les Juifs, on a souvent vécu comme ça. On dit, fais pas de vagues, fais pas de vagues, cache-toi. Ouais. Moi, on te connaît mieux, c'est. On connaît pas ton nom, c'est encore mieux. Si un jour, il y a un truc, on connaît pas ton nom. Moi, on connaît toi, mieux c'est. Mais ça, ça marchait avant. Aujourd'hui, ça marche plus, ça. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, t'es obligé de diffuser. T'es obligé de rayonner autour de toi. Je dis pas que tu dois être là en train de t'associer avec les autres. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est la nuance. Ça, c'est la nuance. Parce que c'est pas, j'ai envie de dire, bon, bah, dans ce cas-là, on est dans un monde ouvert, d'accord? Tout le monde est copain, etc. Tout le monde est copain, copine, il n'y a plus de limite. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Au contraire. On est dans un monde dans lequel il faut doublement faire attention à créer un cocon de protection. Mais d'un autre côté, il faut diffuser. Il faut illuminer, il faut irradier. Irradié autour de nous. Je continue. L'Oleistapek. Donc là, vous voyez déjà, on voit l'idée d'être ambassadeur. Et on n'a pas le choix. Ça veut dire que si vous comprenez bien, chacun de nous est une menorah. Chacun de nous est allumé.
Allumé.
On est tous allumés.
Attention.
Ah, tu vas rentrer à la maison, tu vas me dire qu'est-ce que t'as appris? T'as dit, j'ai appris qu'on est tous, désallumés.
Ah, je vais pas te le dire.
On est tous désallumés, et maintenant je vais t'allumer. Non, parce que quand une personne dit je vais t'allumer, ça veut dire. Non, je vais t'allumer, ça veut dire je vais éclairer. L'eau, les istapeg, mâchez pas l'être molle, ne pas se suffire de ce qu'il a fait hier, et la aussi, vecholium od, or, ne pas se suffire de ce qu'il a fait hier, mais de rajouter chaque jour encore de la lumière, à lave la date, ma pâle et molle, ça veut dire que ce qui implique que chaque jour, je dois me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est dès la date, ma à lave aussi, pour savoir ce que je dois rajouter aujourd'hui. Voilà, le message est très clair. Et moi, je vais vous dire, hein, non, je pense pas qu'on doit en faire la suite, parce que ça, il aurait fallu encore une heure pour faire la suite. Le message est très clair. C'est que, on se laisse aller. Pas se laisser aller dans le mauvais sens du terme.
On est bien dans ce qu'on est.
Je suis bien. Pourquoi tu peux pas, comme ils disent là-bas, on change pas une équipe,
il gagne.
Je suis bien. Pourquoi tu me prends la tête? Je fais mon Shabbat, je fais mes mitzvot, j'ai mon petit cours, une heure par-ci, c'est bon. Kacher, c'est bien, je suis un bon juif. Oui. Qu'est-ce que tu me prends la tête?
C'est bien, c'est bien.
Ah, il y a plusieurs choses. Vous savez ce que nous dit le Rav Azimov? Rav Azimov, le Chonon Lemaré, nous dit la chose suivante. Il nous disait, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais il nous disait, par définition, pour ce que les parents ils font, les enfants ils enlèvent
20%.
20%? Ouais.
Ah bon?
Ça veut dire comme ça.
Enfin, ça dépend de ce qu'ils font les parents.
Non,
s'ils font quelque chose de mal, c'est bien d'enlever 20%.
Parce qu'il faut comprendre, quelque chose de très important. Que pour nos enfants, on est un modèle. Même si des fois il dit oui, mon fils il me respecte pas, etc. Il respecte pas, c'est le façade ça. Mais va avoir un copain qui va se moquer de toi, lui, il va lui décoller une droite. Parce qu'il te respecte.
Toi
de mon père. Dis, mais t'arrêtes pas de nous parler de ton père, t'as pas l'insulté. Il dit, moi je l'insulte, toi tu touches pas mon père. J'ai vu des gars comme ça. Et bien, il arrêtait pas de dire des maldivisions. Je lui dis, arrête, tais-toi. Et moi, il y en a un qui a dit, mais il dit, oh, ton père, ça, bon. Il a décollé une droite. Il dit, mais t'arrêtes pas de nous dire des bêtises. Tu dis pire sur ton père. Il dit, moi, c'est mon père, c'est ce que je veux. Tu touches pas mon père, toi. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, il aime son père. C'est qu'en vérité, son père, c'est son modèle. Alors, quand tu fais un modèle, tu dis, bon, j'espère être comme lui. Mais comme c'est ton modèle, donc tu sais très bien que tu seras pas comme le modèle. Tu seras un peu moins. Donc c'est pas grave. T'enlèves 20%. C'est-à-dire, imaginez, t'enlèves 20%. C'est-à-dire que si tu veux que ton fils y fasse 100 mitzvot, faut que t'en fasses 120, même plus, hein. C'est mal calculé, ça. Des fois, c'est le contraire, mais c'est rare. Normalement, c'est très rare que les enfants dépassent les parents. Normalement, les enfants essayent d'être comme les parents. Non, mais ça veut dire, dans sa tête, un enfant, il se dit, mon père, c'est le modèle. J'espère être comme mon père. Donc, comme c'est ton modèle, alors tu comprends, dès que vous me dites, bon, mon père, il est comme ça, moi, je suis un peu moins. C'est-à-dire que si le père, il descend, et où on va comme ça? C'est pour ça que chacun de nous doit se rappeler qu'il est l'ambassadeur, et qu'il doit se rappeler qu'est-ce qu'il a fait hier, pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut rajouter. Il faut constamment se remettre en question. Ça, c'est un commentaire que le commentaire qu'on a fait aujourd'hui, c'est un des premiers commentaires que le rabbi avait fait. Il avait adressé ce commentaire à des élèves de Yeshiva. Bon, là-bas, dans la suite du commentaire, il avait appliquer ça dans la vie d'un élève de Yeshiva. Un élève de Yeshiva, qui a posé la question, combien j'ai étudié hier, combien je rajoute aujourd'hui, est-ce que j'ai assez étudié, est-ce que je vais étudier 5 heures, ou 6 heures, ou 8 heures, ou 10 heures. Donc, il a parlé avec des notions qui parlent à un élève de Yeshiva. Mais évidemment, nous, on n'est pas des élèves de Yeshiva. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas des élèves de Yeshiva, mais le message est très clair. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de te parler de 6 heures d'études, de 8 heures d'études, c'est pas de ça qu'on parle. On te parle de choses simples. Tu te dis, pose-toi la question, qu'est-ce que t'as rajouté par rapport à hier? Hier, t'as allumé 6 bougies, aujourd'hui, t'as allumé 7. D'accord? Qu'est-ce que t'as rajouté dans ta vie? Qu'est-ce que t'as rajouté dans ta vie cette année? Allez, vous savez quoi, je vais même sur une année. Qu'est-ce qui a changé en 5178 par rapport à 177? Normalement, malheureusement, ce qui change, c'est... on est descendu, et on le voit qu'on descend.
Non, mais ça peut être aussi rectiligne.
C'est pas possible, ça. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi?
C'est la vie.
Dieu, il dit comme ça. Dieu, il dit, si tu m'abandonnes un jour, je t'abandonne deux jours. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est très simple. Parce que Dieu, il te dit comme ça. Tu dis, toi, tu dis, moi, j'ai quitté Dieu un jour. Moi, j'ai quitté, ça. On me pose. J'ai mis une pause dans ma vie de 20 ans à 50 ans. Après, à 50 ans, je te retrouve, Dieu. Dès une fois que j'ai fini mes affaires, 60 ans, je te retrouve. Je fais une pause 40 ans, tu me laisses tranquille, tu me laisses bien faire des sous, et après, on se revoit. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que, on peut pas mettre en pause. L'obscurité, elle rentre en toi. C'est-à-dire que quand toi, tu mets en pause, tu dis, si toi, tu m'abandonnes, toi, tu quittes un jour, en vérité, tu me quittes deux jours. Parce que l'obscurité, elle rentre en toi. Alors que quand tu étais en train de te battre, eh ben, tu gagnes double, en vérité. Parce que d'abord, tu gagnes, parce que tu fais rentrer la lumière, et en plus, tu gagnes parce que t'as repoussé l'ennemi. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est binaire. C'est pas compliqué. C'est comme dans les forces physiques. Tu peux pas monter et descendre en même temps. Soit tu montes, soit tu descends. Dès que t'arrêtes de monter, imagine-toi, t'es dans une pente, en train de grimper. Moi, tu dis, bon, j'arrête de monter. T'as pas le frein à main. T'arrêtes de monter. T'arrêtes de mettre l'énergie pour monter. Qu'est-ce qui se passe? Tu tombes! Tu dis, ça va? Je l'ai arrêté sur image ici, pourquoi il tombe? Pourquoi tu tombes? Parce que ça marche pas comme ça. Dès que t'arrêtes de mettre la puissance pour monter, tu tombes. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et ça, c'est un message de Hanouka. Et que là, on voit parfaitement comment volontairement les Chachamim ont mis des différences dans le message de Hanouka par rapport au temps pour nous montrer que Hanouka, ça nous parle particulièrement en exil. Et donc, je disais, c'est la raison pour laquelle, moi, de toutes les fêtes en exil, celle qui me parle le plus, c'est Hanouka. Toutes les fêtes nous parlent, mais comprenez une fête comme Pessah, par exemple. Bien sûr qu'on va se travailler pour se sentir libre, etc. Mais c'est difficile à la vie, cette fête. Très difficile. T'es en exil. Donc, tu vas te sentir libre, etc. C'est difficile. Une fête comme Sukkot. D'accord? Bien sûr, tu vas vivre, etc. Mais concrètement, la fête de Sukkot est conçue pour être vécue au Beit HaMikdash. Dans les joies du Beit HaMikdash, dans les festivités du Beit HaMikdash. C'est conçu pour ça. C'est une fête qui est conçue pour ça. Donc t'as du mal à vivre pleinement ta joie. Prenez une fête comme Shavuot. Pareil, c'est une fête qui est conçue. Toutes ces fêtes sont conçues pour être vécues au Beit HaMikdash. Hanouka, c'est la seule fête qui n'est pas conçue pour être vécue au Beit HaMikdash. C'est une fête qui est conçue pour être vécue en exil. Donc c'est pour ça que c'est une fête qui nous parle beaucoup. Qui te dit que la lumière finira par vaincre sur l'obscurité. Et ça, c'est le message éternel de Hanouka. Alors, il y avait encore, comme je vous disais, un autre dossier. Alors, on peut passer au moins une heure dessus. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite, si vous voulez, à le prendre chez vous. Vous pourrez peut-être essayer de lire.
Ça veut dire qu'après, on n'aura plus besoin de la lumière.
Oui, c'est parce que c'est comme l'époque du temple. À l'époque du temple, quand il fait plein jour, t'as pas besoin d'allumer la lumière. À la limite, t'allumes parce qu'il faut allumer, mais c'est allumé, c'est bon, il n'y a pas besoin. Tu te bats contre personne. Il fait jour dehors.
Ça veut dire aussi qu'il n'y aura plus Hanouka. On ne fera plus Hanouka.
Ce sera différent. Hanouka, c'est clair que Hanouka sera moins pertinent qu'aujourd'hui. Hanouka est pertinent aujourd'hui parce que si je vous dis, monsieur Benito, on va allumer une bougie en plein jour. Je dis, bon, ta bougie ne sert à rien.
Oui.
Mais là, quand tu es en pleine nuit, tu allumes une bougie, ça change. Tu le vois, ça n'a rien à voir. Ma chère revenir, on sera en plein jour. Quand t'es en plein jour, t'allumes une bougie. Bon, c'est bien, t'allumes une bougie, pourquoi pas? C'est joli. Mais elle n'est pas vraiment nécessaire. Donc, bon, tu l'allumes, tu touches pas. Elle laisse comme ça. Tu te bats contre personne. Bon, je suis déjà éclairé dehors. Mais quand il fait obscur dehors, il faut constamment se battre. On finira par gagner. Bezrat Hashem. Ça, c'est le message éternel de Hanouka.
Vous avez dit que à l'époque, le candélabre, il éclairait le monde de l'intérieur. Il s'est éteint, il n'y a plus de comment tu sais que le monde était encore éclairé?
Non, quand j'ai éclairé, c'est pas éclairé physiquement. Éclairé, c'est par la lumière spirituelle. La lumière de la Torah, des mitzvot, la lumière du monde. Voilà.
Mais la question, elle est où?
Elle est cachée quelque part.
Ah, elle est cachée ou c'est les Romains qui l'ont pris?
Non, celle qu'ils ont pris, c'est pas la bonne.
Qu'est-ce que tu cherches, toi?
Non, parce qu'il disait que le jour où on trouvera la menorah.
La quoi? Elle est cachée.
Ils disent qu'elle est sous le monde du temple.
La menorah de Moïse, elle est cachée.
Ah, d'accord.
Et ça, je savais que...
Elle est dans les sous-sols du Vatican.
Non.
C'est une fausse, oui, parce qu'il va y
prendre... C'est pas une fausse. C'est vrai.
C'est vrai,
mais c'était une... C'est une réplique. C'est-à-dire, dès que les sages... Il y avait le roi Salomon, dès qu'il a construit le temple, dès le départ, il a conçu des cachettes.
Ah, d'accord, des couloirs.
Et les sages savaient que dès que ça va mal, ils sentaient que dès que ça allait mal, on cachait. On avait des répliques.
Ah, il y a tout prévu, carrément.
Ça veut dire que... ce qu'ils ont au Vatican, s'ils ont.
Elle a servi pendant.
D'accord. S'ils ont. D'accord. S'ils ont, c'est qu'une réplique. Ça reste important. Vous inquiétez pas, on récupérera. Mais mais c'est une réplique. C'est pas le.
L'original, il est caché.
L'original est caché.
Oui, il est l'original.
Il est caché quelque part. Il est.
On va le trouver.
Peut-être à Jérusalem. Je sais pas. Je sais pas. Si je savais, je me sens.
Alors, il y a des clients pour l'original.
Oui, sûr.
Voilà. Alors, ça reste là.
On débarrasse. Comment on peut détruire?